livre au pluriel. Par ce titre, j'ai voulu dire que la Bible était un livre en plusieurs livres, essentiellement un livre en deux livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ceci au niveau de l'extérieur, de l'édition du livre. À un niveau plus fondamental, cela veut dire que l'Écriture est témoignage multiple et parole une. Et on peut dire au fond que, comme tout ce qui concerne la Bible, ceci entraîne à la fois beaucoup de difficultés et beaucoup de lumière. Alors, quelques mots pour vous présenter comment j'ai l'intention de répartir mon sujet. Tout simplement, d'abord, je rappellerai, à partir des faits de l'Écriture elle-même, qu'est-ce que c'est que cette multiplicité ? De quoi s'agit-il quand je parle d'un livre au pluriel ? Et puis, je m'expliquerai sur le sens de tout cela, les différentes catégories de pluriel, et puis l'unité. Alors, la première catégorie de pluriel, c'est le pluriel du successif. Il est dû à la différence des temps dans l'histoire. D'abord une période, puis une autre période, et on peut réduire cette succession à la grande différence qui est la différence des deux testaments. Voilà pour le pluriel du successif. Deuxièmement, le pluriel du simultané, comme dans une polyphonie, on entend plusieurs voix en même temps. Alors, ceci concerne surtout la différence des genres dans la Bible. Pas des genres masculins et féminins, mais des genres qu'on appelle le genre littéraire. Cela inclut aussi la pluralité des témoins d'un même événement, pluralité du témoignage, et puis, de manière singulière, centrale, exemplaire, la pluralité de l'évangile, puisqu'on dit à la fois un évangile et quatre évangiles. Donc vous voyez, dans la partie précédente, pluriel, ça veut dire surtout dans le successif un testament et deux testaments, tandis que dans cette partie, pluriel, simultané, ça veut dire surtout, l'exemple principal, c'est surtout un évangile et quatre évangiles. Voilà. Mais évidemment, nous ne nous arrêtons pas à l'unité. Elle est là pour nous conduire à l'unité, ce sera ma troisième partie, l'unité de l'Écriture. Et où est-ce qu'on construit l'unité de l'Écriture ? On la construit avec un élément ou un lieu qui n'est pas dans l'Écriture. Alors je commence par le rappel des données, si vous voulez bien. Et les données, eh bien, l'Écriture elle-même les mentionne, l'Écriture elle-même se donne comme un livre au pluriel. Voilà le texte peut-être le plus connu qu'il nous arrive de lire dans la liturgie au sujet du pluriel des Écritures. Il est le commencement de l'Épître aux Hébreux, que voici. « Après avoir, en bien des reprises et en beaucoup de manières, parlé autrefois au Père, dans les prophètes, Dieu, à la fin des jours que nous avons atteinte, nous a parlé à tous dans le Fils. » Alors, le sens et le contenu de ces versets, versets très importants, puisque l'Épître commence par eux, c'est le fait que la révélation, ce n'est pas seulement Jésus-Christ. Lui, Jésus-Christ, est unique, puisqu'il s'appelle le Fils, puisqu'il est aussi la parole une, mais il y a aussi la parole multiple. Et cette multiplicité a deux aspects, qui sont tout à fait les deux aspects sur lesquels je construis mon exposé. Dieu a parlé beaucoup de fois, c'est la successivité, et il a parlé en beaucoup de manières, c'est la simultanéité. Je vous demande pardon de redire cela en latin, multifarié, multisque, modis. Alors la parole multiple dont il est question, c'est la parole des prophète, d'après l'Épître. Dieu a parlé autrefois au Père dans les prophètes. Mais ce terme ici, comme souvent dans le Nouveau Testament, a une acception très large. Il désigne même toute parole de la loi mosaïque, il désigne les psaumes, il désigne les sages aussi comme des prophètes. Pourquoi ? Parce que toute leur parole est en rapport avec ce qui vient après eux, avec le Christ, leur avenir. Comme ils parlent en rapport avec leur avenir, même si leur titre n'est pas prophète, leur parole est prophétique. Alors, paroles multiples et paroles nombreuses font face à la parole du Fils unique Jésus-Christ. Et les paroles nombreuses viennent d'abord, la parole unique vient ensuite, d'abord les prophètes et ensuite Jésus-Christ. Mais alors, de cela, on pourrait conclure que la parole unique et définitive du Fils qui est placé si haut va certainement pas annuler les paroles précédentes, il ne peut pas les rendre fausses, au contraire, mais il pourrait les rendre inutiles et superflues. Une fois que est venu celui qui était annoncé, les annonces pourraient tomber dans l'oubli. Or justement, l'Église ne procède pas de cette manière en nous présentant l'Écriture. Le Christ lui-même n'a pas procédé de cette manière. Et ici, plus loin, dans la même épître aux Hébreux, au chapitre 11 et 12, il est question des pères, c'est-à-dire des hommes de l'Ancien Testament, des prophètes et aussi des martyrs antérieurs à Jésus-Christ, et on nous dit, ils n'ont pas encore obtenu la réalisation de la promesse, ceux-là. Et pourtant, la promesse ne les a pas fait disparaître. Au contraire, l'accomplissement de la promesse a pour effet que nous les trouvons autour de nous. Et à ce moment-là, toujours en termes de multiplicité, on les appelle une nuée de témoins. Nous aussi qui avons autour de nous une telle nuée de témoins. Ils sont donc pas seulement avant nous, loin derrière, hein, comme un cortège dont on verrait pas le bout. Au contraire, ils forment, certes, ils forment une couronne autour de Jésus-Christ. Donc nous avons besoin de leurs paroles, sans quoi, pourquoi seraient-ils là? Ils témoignent avec Jésus pour nous. Alors quels sont-ils, ces témoins ou ces prophètes? C'est fort simple, ils sont tout l'Ancien Testament qui comprend 22 livres écrits en hébreu. Ensuite, les Juifs ont traduit eux-mêmes ces livres en grec avant le temps de Jésus-Christ, et puis il comprend aussi 5 livres qui n'ont jamais existé en hébreu, mais seulement en grec, 22 et 5, ça fait 27 livres. 27 livres, c'est bien un pluriel. L'Ancien Testament est un, il est aussi un au pluriel, un livre qui est tout autant une bibliothèque, et ceci vaut des différentes parties de ce testament, d'abord 5 livres de la loi, que les Juifs appellent aussi Torah, qu'on appelle aussi Pentateuque, ce qui veut dire, d'après le grec, 5 tomes, comme Pentagone ou Pentathlon, Pentateuque, 5 tomes, pour la loi. Puis 4 livres qui racontent les actions du peuple depuis la conquête de la terre promise jusqu'à l'exil de Babylone, qui achève la monarchie. Puis les 4 grands prophètes, qui sont Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, puis les 12 petits prophètes que je n'énumère pas, Amos, Osée, puis les psaumes et les livres de sagesse, puis des écrits qui sont témoins de la période d'après l'exil, Esdras, Néhémie, Chronique, les Maccabées, Tobie, Judith, Esther. Les Maccabées, on les appelle maintenant livres des martyrs d'Israël. Alors voilà, ces prophéties par lesquelles Dieu a parlé. Alors, dans la perspective de l'Épître aux Hébreux, que j'ai cité tout à l'heure, ce peuple ancien est appelé à former un seul peuple avec les chrétiens auxquels l'Épître adresse.